Le mercredi balado diffusion chez Simplement Plein Air, on y retrouve de tout pour tous, sauf la chasse, sauf la pêche, car c'est le lundi pour la pêche et le vendredi pour la chasse. Simplement Plein Air, de la balado diffusion à son meilleur. Bienvenue à l'expérience audio Simplement Plein Air. Cette expérience vous est rendue possible grâce à la participation des partenaires suivants.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
Les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-arme-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca.
Et voilà, on est de retour. Réchauffez-vous, mettez du bois dans le poêle. On s'en va faire un tout petit tour au nord du 53e parallèle. Et oui, et pour les nouveaux qui nous écoutent, bon, on va une fois par semaine rejoindre notre bon ami. On a des nouvelles du nord du Québec, dans le coin de Reddison, La Grande. En fait, c'est le nord du 53e parallèle. On va aller rejoindre un photographe animalier et un passionné du grand air, un passionné du Nord, M. Sylvain Paquin. Salut, Sylvain.
Hey, salut, Guy.
Hey, vous avez de la drôle de température là-bas. Naturellement, il faut s'y attendre. Hein? On est au Nord, il neige, mais là, il y a de la neige. Hein?
Ah oui, il y a de la neige. Tombé facilement un 30 cm la semaine dernière, de petite neige folle, aucune portance. C'est dur, ça, la motoneige. Parce que moi, j'ai pas une grosse motoneige. J'ai une petite Yamaha Bravo Long Track. Mais et je te dirais que faire 200 mètres après la tempête, rester pris trois fois, puis pelleter, sortir ça de là. Je me suis amusé comme un petit fou. Raquette, ben, on fait ce qu'on peut. Mais je te dirais, c'est super correct. Là, ça fait du bien. On va avoir de la bonne neige. Là, ben, tu vois, on a eu trois jours de beau temps. Des matins super géniales. Moins 4, moins 5, super soleil, givre, les arbres sont super beaux. Puis ce matin, ben, moins 21 avec le refroidissement éolien, mais avec un super soleil. Fait que c'est, je te dirais que Dame Nature, elle n'est pas bipolaire, elle est quadripolaire. Puis là, ben, ouais. vu qu'on est pas mal loin du polaire, ben, on est en train de profiter de tout ça, je te dirais, moi. Je vis avec, fait que c'est...
Oui, puis écoute, tu m'as mentionné aussi les déplacements de caribou, là. Déplacements, là, tu t'es rendu compte d'une chose. Ben, t'en as déduit une chose, puis j'aimerais ça que tu nous l'expliques.
Ben, c'est que le gros troupeau de caribou, quand il fait sa migration vers le sud, fait deux ans qu'il n'est pas venu dans notre secteur parce que, ben, trop de pression, la chasse est fermée. Et tu vois, l'année passée, ils sont pratiquement pas venus dans le coin de Chicxulub. Mais là, cette année, ils ont fait Ils ont fait des petites entourloupettes, puis ils sont revenus dans notre secteur parce que la bouffe est abondante, puis vu que tu n'as plus vraiment de chasse. Donc, ils ont migré. Écoute, on parle de dizaines de milliers d'individus. Puis là, ben, tu vois, on a eu quand même des journées quand même agréables, pas trop froides, pas beaucoup de neige au sol. Fait qu'au lieu d'avoir des gros troupeaux, comme d'habitude, de 5 6 000 individus, comme on a vu dans les dernières semaines, ben là, il y a de la trace partout. Puis on parle peut-être de 50, 100 individus. Après ça, peut-être un demi-kilomètre, un kilomètre, on retrouve encore une petite poche de 50, 100, 200. Fait qu'ils sont vraiment comme un peu en éventail, un peu partout en forêt. Fait que c'est un peu spécial parce que, tu vois, j'ai été taper des trails avant la tempête de neige. Puis là, tu te dis, bah, il n'y a pas de traces. Bah, ils sont pas dans le secteur. Hey, je reviens le lendemain, puis les caribous, je sais pas si tu le sais, ils ont sauté dans ma trace de skidoo, là, puis... trace de skidou est quasiment rendu au sable. Là. Fait que, non, il y en a. C'est des petites poches un peu partout. Puis ça, ben, j'ai noté ça là, quelques années parce que habituellement, il y avait des méga, méga troupeaux de dizaines et de dizaines de milliers. Puis là, ben, comme je peux voir, puis encore plus encore cette année, ce gros troupeau-là, quand il est arrivé dans son aire après sa migration, son aire où il va passer tout l'hiver ici, ben il s'éparpille. Puis je te dirais, c'est super correct comme ça parce que ils ont de la bouffe en masse. Puis ben vu qu'il fait pas encore trop froid, ben ils font leur gras d'hiver. Puis moi je trouve ça juste correct. Puis en même temps, ben c'est beau parce que y en a partout.
Ouais, c'est ça.
Tu tombes à des endroits où tu n'y attends pas, puis comme l'autre jour, je suis sorti à côté d'un lac, parce que les lacs sont pas sécuritaires pour les motoneiges encore, puis tu sais, tu arrives là, puis tu en as 150 de couchés, là. Là, tu te dis, tabarnouche, je m'attendais pas à ça, c'est des beaux moments, là.
Ouais,
c'est vraiment cool. Là.
On a vu de la belle photo aussi passer, là, je te dirais que, wow, c'est assez spécial, hein?
Ah, ben oui, parce que je veux dire, ce sont tellement curieux que quand tu prends le temps d'y aller super doucement, comme moi, quand je sais qu'ils sont là, les caribous, ben j'enlève ma lumière, la lumière de motoneige, puis je veux dire, c'est une petite motoneige, fait que ça mène pas trop de bruit. Fait que quand j'y vois, j'arrête tout de suite, la motoneige débarque, puis je veux dire, ils t'ont... Regarde, ils sont hyper curieux. Vu que tu t'approches, je veux dire, c'est des moments qui sont hyper magiques, là. Mais c'est ça, c'est la beauté du Nord. Oui, c'est rude l'hiver, mais je veux dire, tu sais, t'as toutes ces beautés-là, les lagopèdes qui sont là, beaucoup de traces de loups. Les loups, ils sont vraiment en chasse dans ce temps-ci, là. C'est vraiment fou de voir que dans la même journée, ils ont parcouru des dizaines et des dizaines de kilomètres, justement, là. Pour aller faire le ménage dans le troupeau, parce qu'il ne faut pas oublier que le loup va faire le ménage, va manger ceux qui sont malades, va manger les vieux. Oui, une fois de temps en temps, va manger les petits, là, mais je veux dire, présentement, c'est la réalité de la chaîne alimentaire.
Là. Ah ben oui. Non, puis ça, écoute-moi, moi, je l'ai toujours dit, hein, le loup est différent du coyote, parce que le coyote tue pour tuer, mais le loup va tuer... Comme tu le dis, il va nettoyer, il va... Écoute, il va garantir sa survie aussi, puis il va manger. Il laissera pas rien périr là. Puis, naturellement, ben, c'est son territoire aussi. Hein. Ça, c'est... Absolument. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Ça va toujours l'être. Le loup va suivre, comme tu le dis, les faibles. Les animaux qui sont faibles, ceux qui sont malades, ceux qui sont plus vieux. Oui, ça arrive, comme tu le dis, les petits, mais c'est pas la majorité, c'est plus les vieux, les faibles.
Absolument. Mais tu vois, ça fait partie de la réalité. Souvent, les gens, ils écoute, c'est tout le temps l'histoire du gros méchant loup.
Ah ben oui, comme le gros méchant ours qui est tellement un prédateur féroce et atroce qui mange du monde et des chats et des chiens et tout ce qu'on voudra.
Mais ça peut arriver, mais oui. J'entends-tu que, je veux dire, dans l'histoire, il y a peut-être arrivé une ou deux mésaventures, sauf que, tu sais, moi, je vis avec eux autres, les ours, puis si tu fais un minimum, tu prends un peu un minimum de précautions et tu les respectes habituellement, il n'y en a pas de problème.
Ah, il n'y a pas de problème, c'est ça, exactement. Ben oui. Hey, puis les oiseaux, là, finalement, les perdrix, puis ça, c'est-tu reparti ou il y en a encore en abondance avec les renards,
ben,
et tout ça?
Je te dirais, au niveau des renards, beaucoup, beaucoup de traces. Là, on commençait à avoir un peu de traces de lynx, un peu de marthe aussi. Là, je vais pouvoir être un petit peu plus relax cette semaine pour aller, j'ai un paquet de secteurs à aller visiter. Mais tu vois, le lagopède, cette année, à date, est encore dans notre secteur. Parce que si je recule là quelques années, le lagopède a descendu pendant deux hivers plus au sud. Ouais. On parle de Matagami, on parle même de Amos.
Oui.
Fait que c'est à date, sont dans le secteur. Il y en a pas mal, là, vraiment. Là. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Là. C'est un peu partout. Là. C'est tellement drôle de voir ça, là. Je veux dire, après la neige, là, en motoneige, à un moment donné, mais tu te promènes, puis ça sort de la... C'est où qu'il y a les ondes crispées, là, ils se cachent en dessous de ça, puis tu les vois sortir, c'est comme des boules de neige qui se mettent à voler, là. C'est impressionnant.
C'est vraiment beau, c'est vraiment un oiseau. Pour avoir eu la chance, moi, au nord de la Sarre, justement, là, 3-4 ans, là, on avait été faire de la photo, puis là, on voyait ça en premier. C'était la première fois que j'en voyais live, là, tu sais, je n'avais vu sur photo et tout, oui, mais de les voir en personne, c'est, wow, c'est de tellement, de toute beauté, c'est spécial à voir. Mais,
les voir s'alimenter aussi, là, je veux dire, tu regardes marcher tout doucement, puis ils s'en vont à côté d'un petit arbuste, puis ils sautent dans les airs pour manger les bourgeons, puis à un moment donné, ils se mettent à courir, ils se lèvent sur leurs pattes, puis ils se mettent à courir, puis ils ont des petites raquettes, là, des grosses plumes, c'est de toute beauté, là.
Oui, c'est super. Et puis, écoute, Sylvain, toi, de ce temps-là, là, naturellement, ça va être tranquille pour le temps des fêtes, mais après le temps des fêtes, ça reprend, là, tes activités, ou si tu vas prendre ça un petit peu plus lousse, là, en terminant?
Je te dirais, en Noël puis jour de l'an, ben, il y a les locaux ici, les infirmiers, infirmières, des centres de santé comme à Chicoutimi, des gens qui sont des locaux qui vont venir faire de la raquette. Puis, effectivement, à partir de la mi-janvier, quand les gros foies vont être passés, ben, je vais commencer à recevoir des gens. Là. Fait que gênez-vous pas. On va être disponible en 2021.
C'est ça, puis ils peuvent te rejoindre comment?
Manière la plus simple, www.animalparking.info, puis avec juste une petite recherche avec le hashtag animalparking, vous allez trouver Instagram, Twitter, et vous allez voir toutes les photos que j'ai publiées dernièrement. Gênez-vous pas, ça me fait plaisir de vous répondre.
Oui, puis moi, il reste à te dire justement ça. Tiens-toi au chaud, fais-nous rêver encore avec tes belles photos, puis on se rejoint la semaine prochaine.
Pas de problème, Guy. Bonne semaine.
Et nous, ben là-dessus, on va vous revenir dans quelques minutes. Restez là, ou allez vous chercher de quoi un bon petit breuvage. On vous revient tout de suite après ceci.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Salut Guy et bonjour à tous les auditeurs de Simplement plein air. Mon nom est Jonathan Goyer du podcast Le VTT Show. Je suis ici pour vous parler de quad. Écoutez, cette semaine dans ma chronique, on va faire ça en deux petits volets. Première des choses, on va parler d'un règlement que j'ai jamais parlé dans mes dernières chroniques. C'est concernant la motorisation. Quand je parle de motorisation, je parle côté moteur, évidemment. Je veux simplement vous faire remarquer que pour circuler dans les sentiers de la Fédération québécoise des clubs quad, le maximum sur le côté moteur, c'est le 1000 cc, donc 1000 cm cubes. Et pourquoi je vous en parle, c'est tout simplement parce que dernièrement, il y a eu un débat sur un groupe Facebook concernant un groupe de quad. Et donc, une personne venait de s'acheter un côte-à-côte avec une motorisation de 1300 cm cubes et il demandait si c'était légal. Et donc, la réponse... c'est oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Tout simplement parce que oui, selon la loi du VHR, c'est légal, il n'y a aucun problème, mais selon les réglementations de la Fédération québécoise des clubs quad, le maximum côté centimètres cubes, c'est 1000 cc. Donc, il n'y a pas de réglementation sur le côté des HP, donc les horsepower ou les chevaux vapeur si on veut, mais il y a un règlement sur le côté des centimètres cubes. Donc, c'est 1000 cm3 maximum. Et pourquoi qu'il y a cette réglementation-là selon la Fédération québécoise des clubs quad? Bien, tout simplement parce que quand que vous enregistrez votre véhicule à la SAAQ, le centimètre cube est inscrit sur le papier d'enregistrement, contrairement à la force de moteur EOHP qui, lui, n'est pas inscrit. Donc, c'est pour ça que la Fédération a demandé que le règlement de 1000cc soit appliqué dans les sentiers de la Fédération. Pourquoi je parle dans les sentiers de la Fédération? Bien, tout simplement parce que si vous allez vous promener dans des ZEC ou dans des chemins forestiers, eh bien, sachez que le 1000cc n'est pas vraiment valide. Là, si vous achetez des machines à 1300cc et plus, ou 1000cc et plus, donc vous n'aurez aucun problème à vous promener dans les chemins forestiers et dans les ZEC, donc dans les sentiers hors fédérés, comme on dit dans notre jargon. Donc, ça, je trouvais que c'était important parce que oui, ça peut mener à la confusion quand vous allez acheter votre machine. Évidemment, il y a des clubs, bien, il y a des agents de surveillance de sentier qui vont laisser passer ça quand ils vont vous faire un check-up, un checkpoint, si on veut. Parce que oui, ça arrive des fois. Mais si jamais vous rencontrez une Sûreté du Québec en sentier fédéré, eux autres, par exemple, ils peuvent ne pas laisser passer ça et vous donner une contravention, contrairement à un agent qui, lui, peut se fermer les yeux parce que votre machine est en règle partout, la largeur, donc 64 pouces à 64 pouces maximum, pardon. Et bon, tout le reste est tout en règle, sauf, mettons, les CC. Ben, souvent, un agent de sentier fédéré va laisser passer ça, puis bon, il n'y a pas de problème. Et je dis pas tous les agents, là. On va être prudent, mais il y a certains agents qui peuvent se fermer les yeux. Et par contre, la Sûreté du Québec ou la police municipale, parce que oui, dans certaines villes, il y a des polices municipales qui ont des véhicules tout-terrain et donc ils peuvent faire de la patrouille dans les sentiers fédérés. Donc eux autres, par contre, ça se peut qu'ils ne vous laissent pas passer et qu'ils peuvent vous donner une contravention. Donc, l'autre chose que je voulais vous parler aussi, c'est que dernièrement, j'ai fait une entrevue avec un président de club de l'État du Maine. Et pourquoi je vous parle de ça? Bien, tout simplement parce que ceux qui ne me connaissent pas, dans la vie de tous les jours, je suis camionneur. Et donc, je me rends régulièrement dans le Maine pour aller faire certaines livraisons pour mon travail. Et donc, j'y suis allé pratiquement tout l'été. J'y vais encore aussi, évidemment. Donc, à chaque fois que je me rends dans le Maine, je croise souvent des sentiers de quad. Et ça m'a toujours piqué la curiosité à savoir comment ça fonctionnait là-bas, c'était quoi la réglementation, etc. Donc, j'ai rentré en contact avec un président de club là-bas pour savoir s'il voulait répondre à mes questions et ainsi se faire interviewer pour être dans mon podcast. Ce qu'il a accepté. Donc, j'ai fait une entrevue avec lui et c'est très étonnant le fonctionnement là-bas, comment ça fonctionne. Le but de l'entrevue, c'était évidemment de savoir si nous, Canadiens, on pouvait aller faire de la randonnée dans leur sentier là-bas et comment ça fonctionnait pour un non-résident américain. Donc, la réponse, c'est oui, évidemment, on peut aller faire de la randonnée là-bas. Moyennement, un léger coût d'autour de 90 USD qui va être bon pour toute l'année. Et avec ça, vous allez avoir accès à tous les sentiers de tout l'État du Maine au complet. Donc, c'est pour moi, c'est une très, très bonne nouvelle parce que, j'adore aller dans le Maine. J'adore la côte est américaine pour des vacances ou toutes sortes d'affaires. Et j'y vais régulièrement durant mes vacances. Donc, ça faisait longtemps aussi que je me demandais la question personnelle, surtout, pas juste en tant que pour le podcast, mais surtout personnelle, est-ce qu'un jour je pourrais amener mon 4 roues et faire du 4 roues là-bas? Donc, la réponse est oui. Évidemment, le fonctionnement des clubs, le fonctionnement de la fédération, parce que c'est pas vraiment une fédération là-bas, c'est plus une organisation parce qu'on a appris que les sentiers appartiennent à l'État. Donc, c'est complètement différent qu'au Québec. Ça, c'est un. Deux aussi, il faut savoir que les sentiers de 4 roues là-bas ne sont pas utilisés l'hiver parce que l'hiver, ça devient des sentiers de motoneige. Donc, ils n'ont seulement qu'un sentier partagé. Donc, l'hiver, motoneige, pas de 4 roues. Et l'été, des 4 roues jusqu'au premier surfaçage pour la motoneige. Donc, il me disait, M. Cushman, qui s'appelle, il me disait que les sentiers de quad ouvrent autour de la mi-mai. Et ça va jusqu'au premier surfaçage pour les motoneiges. Donc, on peut parler tout dépendamment de la température, fin novembre, début décembre, début janvier, ça dépend, là. Il me disait que dans le passé, ils ont fait du 4 roues aller jusqu'à la première fin de semaine de janvier. Ça, c'est là 2 ans environ. Fait que Fait que c'est quand même très, très encourageant. Bon, là, évidemment, on a des restrictions côté frontière. On peut pas traverser la frontière en tant que voyageur ou touriste. Seulement les services essentiels. Oui, la frontière est présentement fermée depuis le mois de mars. Bon, je pense que tout le monde sait ce qu'on vit un petit peu partout sur la planète. Évidemment, le but de l'entrevue, c'était essayer de faire rêver les auditeurs du VTT Show et de leur donner un peu d'espoir et savoir si, et en même temps, savoir comment le fonctionnement pour aller là-bas. Donc, évidemment, dès que les frontières vont réouvrir, j'espère que d'ici le mois de mai, ils vont être réouverts, donc les frontières avec les États-Unis, et qu'on va pouvoir aller s'évader aux États-Unis pour aller faire du sentier là-bas, faire des randonnées, puis aller se promener dans les montagnes du Maine, dans l'État du Maine. Je sais qu'il y a beaucoup de Québécois qui adorent aller dans le Maine en vacances, parce que, un, c'est pas très loin. Oui, l'eau est pas très chaude, je sais, mais l'ambiance de Old Orchard, l'ambiance de Kittery, les homards, etc. Donc, si vous pouvez faire deux, trois activités, combiner le quad et quelques journées de vacances là-bas, ben pourquoi pas. Et n'oubliez pas aussi que là-bas, ça prend aussi une assurance responsabilité civile. Donc, ceux qui ont acheté le droit d'accès avec la Fédération québécoise des clubs quad, sachez que les assurances responsabilité civile qui viennent avec le droit d'accès, si vous ne l'avez pas cancellé, si vous l'avez gardé parce que c'était plus avantageux que vos assurances personnelles, bien sachez que l'assurance responsabilité civile de la Fédération québécoise des clubs quad est bonne partout en Amérique du Nord. Donc, ce qui veut dire que même aux États-Unis, cette assurance-là, elle est bonne. Ça, il n'y a aucun problème avec ça, contrairement à ce que beaucoup de monde pense. Eh bien non, c'est pas seulement cette assurance-là n'est pas seulement bonne dans les sentiers fédérés, mais partout en Amérique du Nord, sur votre terrain privé, sur n'importe quel chemin, bref, peu importe, elle est bonne pour aller aux États-Unis. Donc, sur ça, écoutez, moi, je vous souhaite une très, très bonne semaine. N'oubliez pas de venir écouter nos podcasts sur notre site internet www.levttshow.com, notre page Facebook, Le VTT Show. Et n'oubliez pas, si jamais vous sortez en sentier, soyez prudents. Merci tout le monde. Bye-bye et à bientôt.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, on est de retour à votre émission Simplement plein air. Et puis là, on va aller faire un petit tour sur des étendues d'eau gelées un petit peu à l'ouest du Québec et au nord-nord-ouest du Québec. Et oui, on s'en va en Abitibi et pour ce faire, on va discuter avec notre ami Guy Larochelle. Salut Guy!
Salut Guy!
Hey, t'as eu toute une belle expérience, mon gars. Tu nous as fait rêver, un, avec les photos de beaux gros brochets, et deux, avec une photo prise avec un coucher de soleil sur la glace. Donc, je pense que pour vous autres, la pêche à la glace, c'est parti, là.
Oui, c'est parti. Par contre, on en parlait un petit peu avant le début de la chronique. Il ne faut pas prendre pour acquis que les lacs sont tous accessibles. Il y a quand même... autour de Rouen, c'est sûr, il y a plein de lacs. On a plein de lacs autour. Mais il y a des grands plans d'eau, il y en a des moyens, il y en a des petits. Alors, la pêche est commencée, mais moi, je suis pas le gars à aller m'aventurer sur les grands plans d'eau actuellement. Avant le 1er janvier, là, c'est pas mon fort d'aller sur les grands plans d'eau. Par contre, les petits, parlons de lacs de, disons, de 3-4 km de long, 2 km, ces lacs-là sont accessibles. Par contre, il faut quand même vérifier nos affaires. Il y a des normes qui existent au niveau de la sécurité sur les lacs. On va dire que pour une personne moyenne, ça prend une glace de 10 cm, 4 pouces. Moi, dans mon cas, je ne suis pas safe là-dessus. Alors, je vérifie mes affaires. Quand c'est rendu à 6 pouces, je considère pour ma sécurité. Moi, je suis à l'aise là-dessus.
Oui, puis...
Oui,
tu sais, Guy, qu'est-ce que tu dis là, ça a bien du bon sens aussi. Parce que, tu sais, 4 pouces, OK, on embarque sur la glace, on vérifie, il y a 4 pouces là. Mais il n'y a rien qui dit que 5 pieds plus loin, il n'y a pas 2 pouces.
Ben exactement. Parce que le lac, lui, il va geler. Je observais des lacs qu'on voit en circulant en véhicule autour de la ville ou en sortant de la ville. Tu regardes le lac, regardons ça, il y en a la moitié de gelé.
Ouais.
Bien, la moitié de gelée, la semaine d'après ou quelques jours plus tard, cette glace-là, elle peut s'être déplacée ou elle peut avoir fondu, dépendant de la température. Mais que c'est pas automatique parce que ça fait 3 jours qu'il fait en bas de 0, qu'il fait moins 10, qu'on va avoir une belle couche de glace de 10 cm à grandeur du lac, là, c'est pas vrai.
C'est ça.
Puis il y a des courants d'eau aussi, il y a des ruisseaux, il y a des rivières qui arrivent dans ces lacs-là. Bien là, je voyais des zones hier qui étaient complètement à l'eau claire. Alors, on ne s'aventure pas là, on s'éloigne de ces places-là, puis on vérifie nos choses là, régulièrement à tous les 10 pas. Tu casses la glace, 3 coups d'hache. Si tu défonces à 3 coups d'hache,
Sors de là. Ah, oui, non, sors de là parce que il se pourrait fort bien que tu passes à travers, c'est ça. Mais toi, là, en début de saison, comme ça, portes-tu une veste, portes-tu un manteau VFI ou tu vas aller avec la hache et puis tu vas.
Oui, c'est ça. C'est sûr que ça serait une bonne affaire de porter une veste, oui. C'est pas quelque chose qui m'est accroché. Mais oui, ça serait peut-être une bonne affaire de faire ça. Mais une fois que j'ai vérifié là, mon 15 cm de glace, là, je me tiens juste là, par contre, je n'irai pas « Ah, on va aller essayer un trou plus loin dans la petite baie. » Non. Là, je me limite.
Oui, c'est ça. Ça, puis toi, là, tu vas-tu dandiner ou si tu vas aller mettre des brimbales ou c'est quoi ta méthode okay. là, préférée?
Bon, La méthode que j'ai connue, c'était la méthode à 5 brins. On fait 5 trous. J'ai droit à se faire 5 trous par permis, par pêcheur. On se fait 10 trous si on est 2. On a changé de méthode. Aujourd'hui, les équipements de pêche ont beaucoup évolué. Hier, on pêchait à une ligne chaque. On était 3, on avait chacun une ligne. Puis, toutes les 3, on a pris du poisson. En dandinant, en ayant des hameçons qui ont une bonne mobilité dans l'eau, qui sont visibles. C'est sûr qu'au brochet, un brochet, on disait quand on était jeune, ça mord sur un bouchon de bouteille de bière. T'sais, en fin de compte, ça mord sur n'importe quoi.
Ouais.
Ça mord sur n'importe quoi du brochet. Par contre, oui, on va y mettre une belle petite trôle qu'on préfère, puis un petit bout de menée là-dessus.
Oui, puis tu mets-tu un bas de ligne, toi, là-dessus, quand tu dandines au brochet de même?
Pas pour le brochet. Le brochet, l'année passée, quand on a commencé cette méthode-là, on mettait l'hameçon simple au bout ou un petit trépied, puis on avec pas de leader, puis à tout bout de champ, on se faisait casser nos fils.
Ouais.
Et là, on sait que le lac où on va présentement, c'est brochet et perche chaude. Du doré, il semblerait qu'il y en a, mais on n'a pas réussi vraiment à en prendre. Vu qu'on prend la majorité du brochet, on se met un bout de leader de 6 pouces, puis là, ben, on peut s'amuser.
Ouais, c'est ça, tu te mets un leader, un wire, là, pour pas qu'il te coupe, finalement.
C'est ça. Sinon, on perdait toutes nos leurres, on perdait les poissons. Puis, des fois aussi, ils te coupent ça sur le bord de la glace. Hein?
Eh ben oui. Oui, c'est ça qui arrive bien souvent.
Oui. Quand tu pêches dans 6 pieds profonds, puis tu arrives avec un brochet de 30 pouces qui te part de côté, mais à ce moment-là, c'est dangereux qu'il te casse la corde.
Oui, c'est ça. Puis là, mais vous autres, là, quand vous pêchez de même là-bas, là, le brochet, est-ce que vous en gardez? Est-ce que vous en remettez à l'eau? Qu'est-ce que vous faites?
Bon, là, on a décidé cette année de prendre ce qu'on voulait pour un repas, puis le restant, on les remet à l'eau. On s'amuse. C'est sûr
ben
que
oui.
Si on en a un qu'il avale tout ton hameçon dans le fond de la gorge, on ne le mettra pas à l'eau. De toute façon-là, on va le garder.
C'est ça.
Alors, c'est facile d'aller chercher 6 brochets dans le lac où je vais. Très facile. 6 brochets, si tu en as 6 de 28-30 pouces, ben c'est plus qu'un repas pour 3 à ce moment-là.
Ah oui, absolument.
J'aime mieux y aller plus souvent et avoir du bon poisson frais.
Ah oui, c'est ça, c'est pas battable, hein. Tu peux pas battre ça. On a beau dire, ça fait rien qu'une semaine, même après 3, 4, 5 jours, il y a une altération. Là. Quand c'est frais, là, moi, dire, c'est comme, wow.
Puis on parle de pêche, Guy, on dit on va en pêche, oui. Mais le fait de se retrouver pas loin de la ville, sur un lac, pratiquement pas de bruit, avec des journées là, en décembre qui sont splendides. Hier, là, ça valait de l'or l'après-midi qu'on a passé là jusqu'en fin de journée.
Ah,
mon gars m'a dit, je suis tellement heureux d'avoir fait ça. Là. Il dit, j'ai décidé d'être heureux puis d'aller à la pêche puis d'avoir du plaisir avec ça.
C'est le fun.
C'est-tu assez le fun?
Oh,
c'est-tu
oui,
assez le fun?
C'est quelque chose à entendre hein, quand on voit là, que les jeunes, justement, parce qu'on en voit tellement, tu sais, affalés sur leur sofa, là, à jouer à toutes sortes de jeux. C'est triste à voir, là, mais quand on a des jeunes qui sont vraiment intéressés au plein air, puis qui aiment le plein air comme ça, là, puis c'est vraiment, ça fait chaud au cœur, tu sais, de voir aller ces gars-là.
Tu sais, c'est des. Mon gars, il se cherche pas, là. Il sait exactement où il s'en va pour le travail, pour les études, puis pour ses activités de loisirs en plein air. Il sait exactement où il s'en va avec ça.
Ça,
il
c'est se cherche. Le fun.
Ouais.
Hey, Guy, ça passe trop vite, je te dis. On a tellement de fun, tu nous fais rêver. Puis pour ceux là, qui veulent continuer à rêver, ben allez faire un tour sur le Facebook de Guy Larochelle à Rouyn-Noranda. En Abitibi, allez-y, moi je vous encourage fortement à y aller. Puis écoute Guy, c'est sûr qu'on va rejaser la semaine prochaine?
Oui, certain.
Donc, demeurez des nôtres, on est de retour après ceci.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando, de bonheur, de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, c'est-à-dire le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue, c'est notre rando-rencontre avec notre invité aujourd'hui, Amélie Bertrand, qui va nous parler de savonnerie.
Hein, c'est pas le rapport.
Mais également, elle va nous parler de la confiance qu'elle a eue grâce à la marche, la rando. On parle de tout ça donc tantôt. Bienvenue à notre rando-rencontre qui est diffusée à votre radio préférée en direct. Sinon, vous pouvez réécouter le podcast, la version podcast ou encore la version YouTube sur la chaîne de Québec Compostelle. Et puis, on est là pour échanger, parler de randonnée, de vous donner des trucs, des idées. Et tiens, c'est vrai, pourquoi pas vous parler aussi du défi Ça marche présentement, vraiment un beau défi. Il a été mis à une initiative originale de l'organisme communautaire Chemin du Québec. C'est une levée de fonds aussi, mais essentiellement, c'est pour vous aider, vous encourager à sortir, à bouger, peu importe la période de l'année, peu importe la température, parce que c'est important de bouger. On devrait marcher au moins 10 000 pas dans une journée, marcher, bouger, en tout cas, de 10 000 pas. Et puis, c'est ça, le défi, ça marche. Je dis défi, mais c'est pas énorme, là. C'est pas un marathon, c'est pas un triathlon, c'est pas un Ironman, là. On a des nombres de pas, des objectifs à tous les jours, à chaque semaine à faire. Et vous accumulez ça dans votre quartier, OK? Dans votre environnement, peu importe où vous voulez, là. Vous pouvez tourner en rond à l'entour de la maison, si vous voulez. Et là, vous mettez ça dans l'application du défi. Puis là, vous voyez comme si vous avanciez sur le chemin du Québec. Alors, ça vous fait découvrir le chemin du Québec. Il y a des photos, il y a de l'histoire du chemin du Québec qui arrive. Il y a des vidéos également qui viennent vous parler d'équipement pour bien se préparer pour ce genre de truc-là. Il y a une physiothérapeute également, Marcia Aquino, qui vient vous jaser. Donc ça, ça se passe avec le défi, ça marche. Tous les détails sur chemindukébec.com. Mais allons-y, partons à l'aventure et allons découvrir notre invitée cette semaine qui s'appelle Amélie Bertrand.
Qui est Amélie? Donc, Amélie, c'est quelqu'un qui est artiste, qui aime partager, j'adore partager. J'ai un côté très, très humain. J'ai toujours, pas dénié, mais le côté plus sportif, ce côté-là, il était pas présent en moi du tout. Mais c'est vraiment mon parcours, c'est ça qui est extraordinaire. Je trouve le parcours qui a fait en sorte que j'arrive à là. Donc, voilà, je viens de la Rive-Nord. Je suis maquilleuse, coiffeuse depuis 14 ans déjà. Donc, j'œuvre sur des plateaux de tournage, télé, événementiel, tout ça. Donc, je suis quelqu'un qui aime ça quand ça bouge. J'aime vraiment me promener tout le temps, travailler jamais au même endroit et tout ça. Puis, à un certain moment... Bien, ce domaine d'activité-là me parlait de moins en moins. J'adore encore ça. Je le fais encore. Mais il y a autre chose qui est venue à moi. Donc, ça a été vraiment comme tout l'aspect de confection de produits naturels. Et la savonnerie, bien, ça me parlait beaucoup parce que c'est très, très, très créatif. Donc, ça allait chercher mon côté artiste. Et suite à ça, bien, je suis allée faire des cours en aromathérapie aussi.
À 15 ans, elle s'est fait la promesse d'un jour aller en Afrique. Et puis là, rendue là-bas, elle a découvert une association Aromathérapie sans frontières qui aide les jeunes dans certains de ces pays. Elle a donc décidé de participer, puis elle donne un pourcentage de ses ventes à cette œuvre-là. Elle d'ailleurs est allée une deuxième fois il y a quelques années, en 2019, puis elle a tellement aimé ça qu'elle essaie maintenant au quotidien de s'imprégner des valeurs qu'elle a apprises là-bas.
Puis je me suis beaucoup imprégnée de cette culture-là, de ces gens-là énormément. J'ai quand même passé un mois là-bas la première fois et je suis retournée en 2019, encore un autre mois, mais cette fois-ci, j'allais travailler sur une ferme d'huile essentielle. Et j'ai travaillé vraiment comme les Malgaches le font. Puis c'est vraiment du travail très physique. On était dans la brousse, très loin, pas d'électricité, rien. C'était vraiment comme encore plus dans la simplicité. C'est quand je suis revenue de là, de ce voyage-là, que je me suis mis à intégrer beaucoup dans ma vie au quotidien. Je me suis dit, je veux me sentir comme quand je suis en voyage, dans ma vie au quotidien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là-bas qui me fait sentir bien, que je préfère chez moi, dans mon propre Québec, tu sais? Puis c'est là que j'ai fait, hey, mais tous mes trucs, je les fais à pied quand je suis là-bas. Ben, je peux intégrer ça, tu sais, je bouge beaucoup. Donc, je me suis mis à l'intégrer davantage.
Donc, le fait de ralentir, puis ralentir lui a démontré de découvrir, redécouvrir finalement la marche, comment bouger dans son environnement, dans son quartier de façon autre finalement, de se connecter avec les gens qui sont alentour, de faire plein de choses qu'elle faisait ailleurs à pied, puis ici qu'on prend nos véhicules et tout. Donc, le retour d'utiliser ses deux pattes finalement et la confiance que ça lui a donnée en elle. Et tout ça, cette confiance, ben ça la ramène vers le naturel.
Puis c'était vraiment ça, hein, c'était vraiment un feeling qu'il fallait que j'aille vers autre chose. J'avais un besoin de me rapprocher de la nature, beaucoup, de travailler avec des matières premières, avec du vrai, d'être dans tout ce qui enrobe les sens. Puis c'est drôle parce que souvent mon slogan, il est venu une monnaie comme ça, puis ça, le slogan c'est « Éveillez vos sens, éveillez votre conscience ». Fait que c'était de ramener les gens à revenir à la base. C'est ça, la grande ligne de ma savonnerie, c'est de ramener les gens à la richesse de la base. Fait que ça englobe beaucoup de choses. C'est de prendre le temps de refaire les choses comme qu'on le faisait plus anciennement. Donc, la savonnerie artisanale, ben, il faut que je prenne le temps de faire mes savons, justement. C'est fait à la façon qu'on faisait anciennement. C'est tout ça que je trouve le fun. Puis c'est super créatif, c'est artistique, je peux vraiment développer. Et je ne crée pas un besoin. Mm-hmm. C'était beaucoup ça aussi que j'aimais. Tout le monde a le besoin de se savonner.
Alors, le retour au naturel, je dis souvent, hein, c'est pas un fardeau, c'est pas une punition de marcher, c'est un cadeau que tu te fais. Puis elle, à travers tout ça, ben, elle développe des produits naturels. D'ailleurs, tu peux retrouver de tout sur son Facebook Mouton Turquoise. Elle devrait avoir un site internet où on pourra faire les achats, tout ça là, en ligne éventuellement. Pour l'instant, elle n'en a pas. Mais tu pourras en savoir davantage sur Mouton Turquoise parce que pour elle, c'est vraiment vers ça qu'elle se dirige, même si des fois, c'est un petit peu plus difficile. C'est sûr, hein, le changement, ça nous brasse de dedans. Puis l'humain a peur du changement. Mais c'est là-dedans, par contre, qu'on se réalise.
Il y a des jours que je suis vraiment groundée, là, puis je suis comme, je le sais profondément que c'est là que je dois aller. Je le sais, je le sens, mais il y a des jours, j'ai de la difficulté, puis je te dis ça, puis ça vient me chercher. Il y a des jours, j'ai de la difficulté à laisser ce que j'ai bâti quand même, hein. J'ai quand même un 14 ans que j'ai bâti une autre entreprise avec des gens que j'adore dans mon domaine, puis c'est un beau domaine, le domaine de la production de cinéma, théâtre, tout ça, là, tout ce que j'ai tellement fait plein de choses dans ce domaine-là, c'est wow, mais c'est particulier. Fait que c'est pour ça, je suis pas pressée. Je fais ma transition tranquillement, j'ai besoin de m'acclimater, puis de pas tout délaisser, mais je sais que c'est là que je dois aller. Ça, je le sais, parce que j'ai une mission aussi de vie à travers cette compagnie-là. C'est ça que je trouve beau.
Bravo de vivre de ses passions. Notre moyenne de vie sur Terre, c'est quoi, environ 80 ans? Vis chaque moment de tes passions et si tu vis de tes passions, tu vivras une belle, belle vie. D'ailleurs, souvent pour faire la transition vers les passions, c'est la rando. Pour la mienne, ma part, c'est la rando qui est ma passion. Oh, j'aime bien la musique aussi. Mais on est là pour parler de rando. Ça tente d'en savoir davantage sur la rando. Peu importe comment tu veux faire ça. Des petites randos, des plus longues randos. Écoute, Québec Compostelle est vraiment là pour t'aider. L'idéal, c'est de commencer avec notre programme complet. Dans chacune des niveaux, des formules de programme, tu auras une formation complète de 6 heures. Tu as également les randos initiation retrouvailles d'un jour, donc qu'on offre à chaque mois. Il y a aussi une centaine de conférences, formations avec des passionnés de partout à travers le monde. Et tout ça, donc, tu peux regarder sur ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, etc. Mais si tu veux du live, ben écoute, on a des week-ends formation rando. C'est près de 20 heures de formation à préparation. Puis par la suite, ben, tu seras prêt peut-être pour marcher par toi-même ou encore à venir à nos rando séjours, une semaine de rando. Tout ça est disponible sur le site Internet. Va découvrir. Découvre le site Internet québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche!
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, on est de retour à l'émission Simplement plein air. Et là, on va se diriger dans un endroit que j'affectionne beaucoup. Et oui, pour les nouveaux, ben naturellement, vous allez découvrir l'Abitibi. On parle avec notre ami Bushcraft, notre ami Marc Prince. Salut Marc.
Salut Guy, ça va bien?
Absolument. Écoute, aujourd'hui, tu voulais nous amener sur un sujet que tu privilégies, t'aimes beaucoup, naturellement, le bushcrafting. Et puis, tu vas nous démystifier un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, ah ok, les gars s'en vont dans le bois, ils font un camp, ils font un feu, ça s'assise, ils mangent, ils plate. Non, il y a d'autres choses à faire. Oui, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Puis, croyez-moi, c'est pas plate.
Absolument pas. Puis, ce que tu dis, c'est vraiment vrai. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Là. À un moment donné, ça, vous devez trouver les journées longues. Vous allez là, quand vous avez du bois de fête pour le feu, là, il n'y a plus rien à faire. Là. C'est, les journées doivent être monotones. Là. Qu'est-ce que vous faites? Là? Mais c'est justement quand on fait du bushcraft, là, mais les journées sont vraiment pas monotones. Je vais vous dire là, que le soir vient comme trop vite, si on pourrait dire. S'il y a plein d'accessoires qu'on peut traîner avec nous autres, là, des outils qu'on peut acheter, il y en a même certaines qu'on peut faire, qui vont nous permettre là, de justement là, s'amuser là, en forêt là, quand je pourrais dire les tâches principales vont être faites. Là.
Oui, puis moi, ce qui m'avait épaté l'année passée, tu avais fait un siot.
Oui.
Ça, c'est ça, quelque chose.
Oui, ça, c'est vraiment simple à faire. Hein. Ça prend seulement, mettons, avec... une lame de boxa, là, une lame de siotte, là, c'est facile à faire, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je n'avais vu déjà des gens l'en faire, mais j'ai inventé ma recette, là, mais je l'ai faite un petit peu différemment en sachant pas si ça allait fonctionner. Puis ça fonctionne très très bien, c'est le pivot central, là, la façon que je l'ai faite, que ça soit moins compliqué à faire, qu'il y ait moins de sculptage, là, puis ça va vraiment bien. Mais je vais vous dire même que c'est mon siot préféré. Là. J'aime encore mieux scier le bois avec ce siot-là qu'avec un siot manufacturé.
Oui, effectivement, parce que finalement, c'est fait à ta main, c'est fait la façon dont tu veux le faire. Et puis, si je me souviens bien, tu avais mis des photos là, sur Facebook de ça. On a essayé de retrouver ça, on n'a pas pu l'autre jour. Je pensais, moi, que c'était une vidéo, mais je m'étais trompé, c'était vraiment... Ben oui, tu avais fait une vidéo... quand tu scies avec, si je me trompe pas. Hein.
Oui, c'est ça. Je suis comme bien des gens. Là, j'ai changé de cellulaire. Là. Ça doit être sûrement dans mon autre cellulaire. Là. Je vais fouiller un de ces quatre. Là, puis je vais retrouver ça. On va pouvoir le mettre sur la page Simplement plein air.
Oui, on va montrer ça aux gens là, sur notre YouTube. Et puis aussi, ben naturellement, ben tu sais, des journées, là, couper du bois. Tu sais, il y a bien du monde qui vont dire ouais, mais là, tu coupes du bois. Oui, mais tu coupes pas du bois vivant, tu vas trier, tu vas chercher des arbres morts, tu vas, tu sais, t'es pas là à couper tout ce qu'il y a autour du camp, là.
Non, absolument pas. C'est comme je l'ai dit dans des vidéos, dans des entrevues précédentes, on fait ce qu'on appelle du jardinage. On va pas prendre des beaux arbres, là, avec la cime droite, là, puis des arbres vivants, là, ça, c'est très, très rare qu'on va toucher à ça. On va surtout prendre des arbres là, qui sont secs autant que possible. On essaie de choisir des arbres qui vont être debout. Comme ça, il y a moins de risque de pogner du bois pourri à l'intérieur. Mais souvent, là, il peut y avoir un arbre qui est tombé. Là, ça fait juste une couple de semaines là, qui n'a pas été imbibé d'eau, là, fait que ça fait du très, très bon bois de chauffage.
C'est ça.
Mais on ne passe pas la journée à faire du bois de chauffage, c'est ça la fin.
Ben non, c'est ça. Puis juste une petite parenthèse comme ça. Naturellement, là, quand on parle de ça, je veux pas que les gens montent dans les rideaux, là. C'est sur des terres privées. Fait que si vous le faites sur une terre qui ne vous appartient pas, bien naturellement, j'espère que vous ayez la permission. Mais Marc le fait sur des terres privées, c'est que on déchire pas nos bobettes sur la place publique, là.
Non, c'est ça. Soit vous ayez la permission ou ben non de aller à une terre privée à vous-même ou à un ami, quelque chose du genre, là. C'est la best place pour le faire. Puis si vous allez voir un propriétaire, justement, pour avoir accès à son terrain, pour pouvoir vous amuser, allez faire une petite marche en forêt avec lui, puis discuter de vos plans, ce que vous voulez faire, puis c'est facile, mettons, il va vous dire à quoi vous avez le droit, puis qu'est-ce que vous avez pas le droit de toucher, puis vous allez, si vous donnez satisfaction à ce propriétaire-là, vous allez avoir l'endroit plusieurs années, puis c'est vraiment une richesse d'avoir une permission pour aller sur une terre privée.
Ah, absolument. Et puis aussi, bien naturellement, là, tu disais ça, t'as fait aussi une cuillère.
Ouais, c'est ça, fait que... Le but du sujet aujourd'hui, c'était un petit peu ça. On voulait parler un petit peu des outillages qu'on peut amener en forêt pour faire du bushcraft. Nous autres, qu'on va surtout servir en forêt cet hiver, je vais vous montrer un nouvel outil là, qui appelle, c'est une mèche à bois. C'est une, on appelle ça un forêt à tarière à œil. Je sais que beaucoup des gens qui ont déjà vu ces forêts-là, c'est des forêts que nos ancêtres, puis encore des gens qui se servent aujourd'hui, là, on mettait ça après une drill à main. Un vilebrequin qu'on appelait. Là.
Uh-huh.
Et, c'est un forêt là, que normalement, le bout du forêt, c'est comme ça ressemble un petit peu à un bout de vis. Fait quand vous allez tourner, ça pénètre dans le bois puis ça tire la mèche tout seul. On n'a pas besoin de pousser dessus. C'est ce qu'ils appellent une mèche terrière. Puis il y a des compagnies qui en font déjà tout prêt, mais c'est vraiment intéressant de se les faire soi-même. Ça prend une mèche terrière, puis ce qu'on a à faire, là, c'est de souder un bout de tuyau là, en travers sur le bout de la mèche. Dans lequel on peut insérer là, un bout de branche, un bout de bois sec, puis on peut s'en servir comme vraiment pour percer des trous à la main. Quand on fait du bushcraft, en partant, on n'est pas pressé. Ce qu'on fait, on prend le temps de le faire, on prend le temps d'y penser, puis faut pas être à la course. Fait que faire un trou à main avec une mèche terrière à œil, là, c'est vraiment simple, puis c'est vraiment le fun, puis on peut produire là, à peu près n'importe quoi ce qui nous passe en tête, que ce soit des chaises, des bancs, une table, peu importe. Il y a une façon de faire aussi, c'est tout simplement qu'un dossier qu'on peut installer sur on a un petit siège là. Nous autres, comme on disait tantôt avant l'émission, après nos sacs à dos, on a tout le temps les sièges, les fameux sièges en éponge là, que tous les magasins vendent pour la chasse. Là. Mais c'est un petit siège en fonte, ça fait que ça vaut à peine, ça pèse absolument rien. Vous l'attachez à l'extérieur de votre sac à dos, puis on peut s'asseoir n'importe où en forêt.
Oui.
Avec la mèche terrière, quand on est à notre abri, ben on peut confectionner tout plein d'affaires avec ça.
Ah, ben
c'est
oui.
Passée, là, c'est il y a le couteau croche qu'on appelle aussi.
Mm-hmm.
Je pense que tu t'en es équipé un cette année.
Oui, je me suis amusé, m'amusé avec ça, là, voir ce que ça a l'air.
C'est vraiment un bel outil, ça travaille vraiment, vraiment bien. Moi, je suis un gars gaucher, fait que j'ai pas vraiment eu de la misère, mais je cherchais un couteau croche avec la coupe pour un gaucher. Puis finalement, ben, je suis tombé sur un couteau croche qui était coupant sur les deux côtés. Puis je dois vous dire que je suis vraiment content d'avoir choisi ce couteau-là. Finalement, là, un couteau croche, et le mien, mettons, c'est un petit peu dur à expliquer là, mettons à la radio là, comment que c'est fait, là, mais c'est vraiment comme un crochet. Fait que moi, j'ai les deux côtés qui sont affûtés. Puis j'ai même le bout du couteau qui est plat, qui est affûté. Fait qu'il se trouve être affûté sur trois faces. C'est vraiment... là. C'est vraiment un beau couteau, puis c'est de la marque Mora. On sait que Mora, là, c'est vraiment des excellents couteaux. Vous pouvez avoir des couteaux entrée de gamme là, à des prix vraiment qu'on pourrait qualifier de ridicules. Puis c'est pas un couteau que vous allez ressembler d'un mercenaire ou
comme
Rambo, là, mais vous allez avoir un couteau à tout faire qui est vraiment, vraiment robuste.
Oui, puis c'est tellement le fun, tellement plaisant de fabriquer de quoi de ses propres mains aussi. Écoute, Marc, le temps pour moi, on va falloir qu'on revisite ça parce qu'on n'a pas touché à beaucoup de choses. On a juste mis la table, je pense, et puis on va en reparler naturellement. Mais on sait très bien que, Marc, si on veut lui poser des questions, Pro Nature ou Anaranda, hein, Marc?
Oui, absolument. Là, passer en magasin, venez nous voir là, sur la rue La Rivière, pas la rue La Rivière, excusez, sur la rue principale, là, c'est Pro Nature, Rouyn-Noranda, 59 avenue principale. Puis vous pouvez me rejoindre par téléphone au 819-797-2300 ou ben non, tout simplement me demander comme ami sur Facebook, on peut discuter avec Messenger. Puis passer en magasin, vous allez voir, on a vraiment une belle allée là, avec plein d'accessoires là, justement pour la survie, que ce soit des fire sticks ou des bâches ou peu importe, là, des sacs à l'épreuve de la pluie, des rain bags. On a plein d'accessoires en magasin là, pour les nouveaux là, adeptes ou en sortie en forêt.
Oui, absolument. Donc, passez, allez faire un tour, allez visiter, allez jaser avec Marc. Et nous, bien naturellement, demeurez des nôtres, on est de retour dans quelques minutes après ceci.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Et voilà, après une bonne recette, comme ça, on s'est bourré la bédaine. Mais là, on va aller parler mycologie, on va aller parler champignons. Et pour ce faire, moi, je me réfère toujours à un bouquin de M. Roger Larivière, « Champignons comestibles, la forêt boréale ». Donc, si vous avez le bouquin, allez le chercher, on va parler chaga. Si vous ne l'avez pas, ben, ça serait temps de vous le procurer, hein, si vous êtes un mycologue sérieux, là, ou si vous voulez juste vous adonner à la mycologie, sachez que M. Larivière est un conférencier, est un auteur, éditeur, avec moi pour parler chaga, et on pourrait, comme M. Larivière le dit si bien, en parler pendant des heures. Bonjour, M. Larivière.
Oui, bonjour.
À quelle belle température là, pour les personnes qui voudraient aller cueillir du chaga dans les bois, là, ça serait le temps idéal. Là.
Et c'est absolument le temps de cueillir, même si on sait maintenant qu'on peut cueillir le chaga à l'année, sachant que les molécules qu'on retrouve dans le chaga ne sont pas tout à fait les mêmes dans le chaga cueilli en été, que dans le chaga cueilli en hiver.
Oui,
et
oui.
La raison c'est... pour laquelle le chaga en hiver, semble-t-il, est plus profitable, c'est qu'on retrouve à l'intérieur de ce fameux champignon-là, qui ne ressemble pas du tout à un champignon, on le sait, c'est qu'on retrouve des molécules anti-cancer, la bétuline, l'acide bétulinique, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que ces molécules-là sont de nature lipidique, donc c'est des gras, et on les extrait pas de la même façon que d'autres molécules. C'est pour ça que quand on boit un café au chaga, ben on n'a malheureusement pas les molécules lipidiques.
Oui, c'est ça, puis c'est là-dessus que vous vouliez nous entretenir. Et puis moi, ouais. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse, là. Le chaga, moi, en tout cas, moi, il m'est arrivé de mauvaises expériences en récoltant du chaga là, en été. Ça fait beaucoup, beaucoup de lunes de ça. Là. J'ai récolté du chaga en été et puis j'ai eu la malencontreuse idée de pas le, si on veut, là, de pas le mettre en bloc tout de suite. Et puis j'ai eu une moisissure beaucoup de moisissure qui est arrivée. Donc, si vous récoltez en été, mettez-le tout de suite en bloc là, pour le déshydrater le plus rapidement possible. Laissez-les pas en grosse motte, là, parce que vous pourrez avoir des surprises. Là. Mais là-dessus, c'était juste ça que je voulais dire. Là. Mais vous nous disiez justement la décoction, teinture mère et tout ça. Il y a différentes molécules, si on veut. Comme vous dites, dans le thé ou dans le café ou tisane, peu importe comment qu'on peut l'appeler, là, on n'aura pas les mêmes éléments qu'on va retrouver dans une décoction ou une teinture mère.
Ouais. Vous avez tout à fait raison. Puis pour faire un petit peu de pouce sur ce que vous venez de dire par rapport au moment de cueillette, il m'est arrivé exactement la même chose. Mauvais séchage dans un sous-sol qui était trop humide. Puis quand il se développe des moisissures dessus, ben il faut jeter. Alors, ça nous fait ça nous fait de la peine de jeter notre Chaga moisi, mais on sait que c'est une question quasiment pas de vie ou de mort, mais de perte de notre santé. Puis quand on cueille du Chaga, ben c'est justement pour améliorer notre santé. Parce que dans le Chaga, il y a des molécules et aujourd'hui, on va aborder justement ce qu'on va aller chercher avec de l'eau chaude et avec de l'alcool. Donc, avec de l'eau chaude, on appelle ça communément une tisane ou un café, mais dans notre jargon à nous, c'est une décoction. Et on va récupérer du chaga seulement les molécules qu'on dit hydrosolubles. Parce qu'il faut savoir que dans le chaga qu'on a récolté, il y a comme deux grandes catégories de molécules. Celles dont je viens de parler, qu'on récupère avec l'eau chaude, puis les autres molécules qui sont extrêmement importantes parce qu'elles sont considérées comme anti-cancer, c'est les molécules liposolubles.
Donc, à partir de là, naturellement, si on se fait une tisane là, ou un café, est-ce que pour notre santé, ça demeure bénéfique quand même ou on devrait plus se diriger vers les teintures mères?
Moi, je vous dirais, et ça, j'en avais discuté à un moment donné avec le propriétaire de la Mycoboutique à Montréal. C'est là qu'on passait du chaga et c'est là que mes livres aussi sont vendus. Mais c'est des gens qui connaissent et qui veulent connaître absolument la vraie nature des champignons. Alors, quand on fait une extraction à l'eau chaude qui ne doit jamais en passant dépasser 80 degrés centigrades, donc ça ne doit pas bouillir, on met nos cubes ou nos copeaux de chaga dans un contenant. Moi, j'utilise un chaudron très ordinaire. On recommande 15 grammes de chaga sec par litre d'eau. Mais moi, je vous dirais que cette recette-là de base, je la bonifie en ajoutant du chaga, des copeaux, parce que j'aime quand ça goûte. Ben là, on va recueillir, évidemment, des molécules hydrosolubles. Et ces molécules hydrosolubles-là, ben, il y a des glucides, il y a les antioxydants qui sont extrêmement importants. On va aller chercher des molécules de vitamines hydrosolubles aussi et tous les minéraux. Alors, à la question que vous venez de poser, est-ce que c'est bon encore pour la santé? Est-ce que la décoction, le café ou le chaga? Moi, je vous dirais que oui. Et c'est même très bon.
Donc, à partir de là, on n'arrêtera pas d'en prendre, là, mais si on utilise l'alcool, là, l'alcool, il doit y avoir naturellement une façon de l'utiliser. Il doit y avoir aussi un temps de trempage, j'imagine. Il doit y avoir une grosse
absolument.
Chose, un gros... C'est-tu une façon très difficile à faire?
Pas du tout. Écoutez, moi, ce que je recommande, puis ce qui est écrit dans ben des livres de recettes sur l'extraction par l'alcool, ben vous prenez un alcool que vous aimez. Ça peut être la vodka, ça peut être le rhum. Moi, je vous dirais que un de mes fils utilise du rhum épicé parce que c'est ça qu'il préfère. L'important, c'est que vous utilisiez un alcool qui a au moins 40% d'alcool à l'intérieur. Alors ça, c'est quand même important. Puis la façon que ça travaille, l'alcool, avec les... donc, je prends un pot maçon, j'y mets à peu près le tiers de copeaux ou de cubes de chaga, puis je remplis mon pot maçon avec de l'alcool. Il faut que ça reste au moins un mois, comme ça, à l'obscurité. Puis regardez comment ça travaille, l'alcool. L'alcool... en contact avec les copeaux, les molécules d'alcool pénètrent dans les copeaux, puis ils se rendent jusqu'au centre des copeaux, puis vont solubiliser, vont aller chercher les molécules solubles dans l'alcool, et j'en parlais au début de cette chronique, ces molécules-là, c'est des molécules liposolubles, extrêmement importantes, parce qu'elles sont considérées comme anti-cancer. Au niveau de la prévention, c'est sûr. Ces molécules-là, ben, Entre autres, il y a la bétuline, l'acide bétulinique, mais il y en a d'autres. Donc, quand on boit de ce liquide-là, qui s'appelle teinture mère, ben, on va aller chercher les molécules qui ont été extraites par l'alcool. Et les molécules qui sont hydrosolubles, ben, ils sont pas là. C'est pour ça qu'à tous les jours, on recommande de boire le café au chaga et de la teinture mère.
Oui, c'est ça, mais la teinture mère, là, on ne boira pas ça à tasse. On va pas, on prend ça à cuillère, j'imagine.
Non, c'est à la cuillère. On recommande, en tout cas, autour de 3 cuillères à thé par jour de teinture mère.
Ah, OK.
Pas plus que ça, alors que l'autre, on peut en boire 3 tasses. Il y en a qui vont boire 2, 3, 4 tasses même par jour.
Oui, oui. Oui, il y en a que même qu'il y a des peuples, on le sait, en Russie, qui boivent pas de café. Là. C'est leur breuvage. Et
exactement.
Puis ils ont une longévité étonnante.
Ben c'est d'ailleurs en lien avec ça que le chaga est devenu très populaire à un moment donné, à partir de même de 1970, mais de l'autre côté, donc en Europe et en Asie. Parce qu'il y avait, et ça j'en avais déjà parlé à votre chronique, c'est qu'il y avait un petit peuple isolé qui buvait du chaga parce qu'il était trop pauvre pour s'acheter du thé. Et il dépassait 100 ans d'âge et ouais. Il n'y avait pas de cancer.
Oui, on sait que Solzhenitsyn dans le pavillon des cancéreux, justement, en a parlé. Ah, écoutez, M. Larivière, c'est tout le temps qu'on a cette semaine, mais la semaine prochaine, là... vous avertis d'avance, là, j'avertis nos auditeurs, là, soyez des nôtres, parce qu'on va parler de la tramette versicolore, mieux connue d'appellation anglaise Turkey Tail Polypore. Soyez des nôtres, parce que c'est étonnant les vertus que ce champignon-là a. Mais aussi... Bien, naturellement, si vous voulez en savoir autant que moi, là, pour avoir l'air aussi intelligent que moi, là, il faut que vous procuriez la deuxième édition des champignons comestibles de M. Roger Larivière dans toutes les bonnes librairies du Québec. S'ils ne sont pas là, demandez-les. Et puis, si on veut avoir des questions, M. Larivière, si on a des questions et tout, on le fait de quelle façon en terminant?
Très rapidement, je suis sur Facebook, alors on peut me rejoindre là. Et questions aussi peuvent m'être adressées sur mon site web à naturat.ca, naturat.ca. Alors, très facile.
Oui, n'oubliez pas que M. Larivière est aussi conférencier. Donc, si vous voulez réserver ses services, il faut le faire rapidement parce que ça part vite, les réservations.
Ben c'est le fun. On aime ça. On aime ça, parler avec le monde et apprendre des gens qui ont de l'expérience.
Absolument. Donc, là-dessus, nous, ben on vous revient la semaine prochaine. On n'oublie pas Turkey Tail Polypore, la tramette versicolore. Bonne semaine,
et
tout le monde.
Bonne semaine.
Et demeurez des nôtres. On vous revient après ceci.
Simplement plein air, c'est de la balado. Simplement plein air, c'est de la radio. Et maintenant, simplement plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement plein air et abonnez-vous. Après tout, Simplement plein air, c'est pour vous.
Les balados diffusion Simplement plein air sont rendus possibles grâce à la participation des partenaires suivants.
Pour transporter votre arme de façon sécuritaire, librement et parfaitement ajustée pour aller par-dessus vos vêtements de chasse, La Courroie Élite. www.cgelite.ca ou info@cgelite.ca.
C'est le temps de la chasse aux petits gibiers et aux oiseaux migrateurs. Vous rappelez-vous, tout jeune, nous partions avec le père à l'affût d'une perdrix ou encore d'un lièvre. Temps frisquet, pas très bien habillé, mais on chassait avec les grands. Aujourd'hui, c'est moi qui y vais avec ma famille. Mais cette fois-ci, ils sont confortables et bien habillés. Car peu importe la chasse, ça commence avec Pro Nature. Bon, v'là le souper! Pro Nature, le meilleur endroit pour les chasseurs.
les leaders pour les produits de saline, urine, leurre et autres accessoires, les excellents produits Buck Hunter. Venez visiter notre tout nouveau site au www.buck-hunter.ca. Vous verrez les résultats à utiliser nos produits.
Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécurité-arme-à-feu.com.
Verrouille ton arme.
Que ce soit pour vos animaux de compagnie ou vos animaux de ferme, la compétence porte un nom. Monsieur Bouffe, 25 Avenue Chaudière à Rouyn-Noranda, au 819-797-2564, point à la ligne.
C'est ainsi que se termine une autre bonne balado de Simplement plein air. Mais ne vous en faites pas, nous serons de retour tous les lundis, mercredis et vendredis pour le plaisir de vos oreilles. Car après tout, les balados diffusion Simplement plein air, c'est une passion.